Apéro spécial équipe cool à regarder cette saison.
Les équipes cool. Les équipes où tu te dis, ah, cool, trop bien. Les Nets jouent ce soir.
Je vais cliquer sur les Nets. Ah. Allons-y. Tiens, 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 ça fait une vingtaine de matchs que la NBA a démarré sa saison 2025-26. Vous l'avez vu, on a déjà fait un apéro sur les joueurs les plus décevants. Oh, on a sorti l'index comme ça, on a dit, toi, tu fais du caca. Donc, vous pouvez regarder la vidéo, bien évidemment. Et là, on va un petit peu plus sourire. On va respirer, on va jouer collectif. Et là, on va parler de matabilité. La matabilité, la capacité à pouvoir kiffer, regarder ses équipes. Tous les ans, on essaye de faire ça. C'est un espèce de... Pas forcément, là, on va pas faire une tier list avec les 30 équipes NBA. Là, l'idée, c'est plus de se dire, genre, hey, vous qui regardez aussi des matchs comme nous, là, il y a quelques franchises. En ce moment, je clique dessus.
Trois chacun.
Je clique dessus et on va vous expliquer pourquoi. Et ça donne aussi un petit peu l'envie peut-être pour certains de regarder ces équipes parce que parfois tu regardes juste un petit peu les bilans, tu vois, dans les statistiques des joueurs ou dans le classement. Mais tu te rends pas compte que certains produits sont hyper chouettes à regarder.
Je suis pas qu'au bilan. Effectivement, t'as raison de le dire, c'est pas qu'au bilan du tout. Voilà, j'ai quand même une équipe extrêmement bien classée parmi mes équipes que je kiffe. Mais sinon, c'est plus aussi par... comment dire, quand il commence à se passer quelque chose dans une équipe en fonction du début de saison, donc là on a à peu près un mois et demi de jeu derrière nous, donc en gros ça peut être un joueur ou deux, quelques associations qui me font mater une équipe, ça peut être tout un truc qui a pas l'air d'être encore en place mais auquel moi je vais croire et donc ça me fait kiffer de le regarder, ça peut être de la défense, ça peut être de l'attaque, ça peut être la globalité d'un groupe, le mouvement de balle.
Compétitivité.
Qui c'est qui a le meilleur mouvement de balle là, depuis le début de saison, d'après toi? Je sais pas, c'est une bonne question. Qui ce serait? Tu vas nous le dire?
Ouais. Ok. Je vais y venir. Ah là 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 là. Regarde. Le homer. Non, mais on va parler de tout ça. Et avant qu'on démarre avec tout ça, deux derniers points. Le premier, c'est. On n'allait pas faire deux vidéos négatives de suite, mais je veux bien voir déjà en commentaire, selon vous, quelle est la pire équipe à regarder aussi sur ce début de saison, parce que tu sais qu'il y a du... je te la pose là en speed, mais tu sais qu'entre Kings, Clippers, Wizards, Pacers, moi j'avoue que la compétitivité des Nets, j'ai bien aimé sur certains matchs. Même les Pels, ils sont gueulés avec Derrick Queen, mais alors je peux te dire qu'entre les Kings et les Clippers, putain, c'est... dégueulasse.
Je pense que ce serait les Kings.
Moi. Les Kings, c'est atroce.
C'est moche, mais je pense que ce serait...
C'est vraiment, il est où mon chèque? La couronne pour les Kings?
Aucune osmose, et puis surtout, il n'y a aucun genre... T'es pas là en train de te dire, ouais, le projet va prendre forme. Non. Tu vois?
Le projet, c'est un étron.
Potentiellement, au Pelican, ou même aux Clippers, quelqu'un vient me voir et me dit, non, les gars, Clippers, ça va pas être une belle saison, mais ça va se mettre un peu en route, ça va quand même finir par gagner des matchs. Je suis prêt à l'écouter. Tu vois?
Les Kings, il y a zéro décollage. Tu peux que t'enfoncer.
Les Kings, c'est quand est-ce qu'il va se faire trader Sabonis et combien de temps après Lavine et DeRozan vont suivre, quoi.
Tu peux m'envoyer mon salaire?
Ouais.
C'est tout ce que je demande. Juste mon salaire.
C'est clair.
On va pouvoir démarrer évidemment le 3 de Alex et ensuite le 3 de Bibi. Enfin, on va faire un petit ping-pong. Avant ça, vous le savez, lorsqu'on parle de matabilité, on parle de regarder de la NBA en direct. Et qui dit regarder de la NBA en direct dit NBA League Pass. Vous pouvez retrouver dans le premier commentaire, en lien épinglé, plein d'explications sur le NBA League Pass. Évidemment, on est dessus tout le temps. Alex se farcit tous les matins les...
Ouais, les All Possessions Replay, moi, c'est devenu mon meilleur ami.
Et si vous voulez perdre toute votre santé, vous faites comme lui, vous regardez les matchs en direct, en simultané.
C'est sur le début de saison, il y a pas mal de matchs. Je sais pas, je me couche tard sur ce début de saison, donc il y a pas mal de matchs que je regarde à minuit, 1h du mat, voire des fois un peu plus tard. Mais le All Possessions Replay, en fait, ça permet de... Bah, c'est ce qui permet, moi, là, de voir des équipes où je serais pas allé vraiment les voir en direct, c'est sûr, parce que 3h30, 4h du mat, c'est des horaires difficiles. Donc voilà. Mais ouais, All Possessions Replay, c'est vraiment bien fait, ça. Parfois, ils mettent un peu plus de temps à être disponibles cette année, mais c'est aussi parce qu'ils sont un peu mieux découpés. Il y a eu un peu de progrès.
T'as vu, hein?
Dans le montage, c'est vrai. Hein.
Même le 10 minutes condensed, ça devient un 16-17 maintenant. Genre,
Ouais, c'est propre. C'est propre, je suis d'accord. C'est donc, non, bel outil, bien kiffant.
Toujours un classique.
Ouais.
Vous pouvez retrouver en premier commentaire, donc avec le lien épinglé. Et si vous voulez, tous les soirs, vous mettez évidemment les directs 4 matchs en simultané en 4K.
Parce avec que, le premium, là.
Avant, ouais. Parce qu'avant, il y avait eu des. Tu sais, t'avais un match et les 3 autres, ils étaient en 180p, là. Mais là, moi, franchement, je me fais les 2 écrans, là, j'ai 8 matchs en même temps.
Moi, j'avoue que 4, je fais pas. Mais 2, par contre, je fais beaucoup.
Moi, je monte à 8 parfois.
2 sur 8.
Bah, j'ai 2 écrans, quoi.
Ah oui, d'accord. Ah ouais, non. Non, moi je fais pas ça. Moi je fais deux. Deux sur un écran assez grand, je fais à fond, ouais.
Ça peut nous arriver.
Il y a deux Money Time un peu où t'as envie de suivre.
Mais bien sûr.
Il y a Kate Cunningham d'un côté en train de salir et de l'autre côté il y a, je sais pas, Luka Doncic. C'est cool quoi.
Tout à fait. Matabilité. Qui. Ah tiens, il y a cette équipe qui va jouer, j'ai envie de cliquer sur eux. C'est un petit peu ça la question qu'on va se poser et on va tenter d'y répondre. Alex, je te laisse parler de la première équipe. Quelle équipe tu trouves cool à mater sur ce début de saison ?
Bon, les Suns.
Allez !
Ah, franchement. Bah ouais, franchement, je le pose tout de suite, comme ça c'est fait. Ouais. Alors en plus, j'ai de la surprise, c'est de la bonne surprise, parce que vraiment, je pensais pas qu'ils pouvaient vraiment pratiquer ce type de jeu-là, avec cette régularité-là, ce type de jeu-là sur certains matchs, oui. Parce qu'ils ont pas le choix, les Suns, ils sont obligés de jouer un peu comme ça, dur, avec pas mal d'ailiers, autour de Devin Booker en attaque. Mais par exemple, l'impact offensif de Dylan Brooks sur ce début de saison est magnifique. Rien à dire.
Absolument.
Les pourcentages parfois sont, comment dire, suspects. Hein, de Dylan Brooks, les choix aussi, mais il en met, il est agressif, il va chercher du lancer, il prend ses responsabilités. Au moment où je parle, là, Devin Booker est sorti sur blessure en premier quart, il s'est fait une blessure à l'aine contre les Lakers. Ça n'a pas empêché les Suns de gagner ce match.
Devin the villain.
Tu sais que cette phrase-là, fallait quand même la prononcer sans trembler.
J'adore.
Et là, je suis au-delà du résultat comptable. Le résultat comptable est incroyablement supérieur à ce que j'aurais pu penser, mais la manière aussi. La manière aussi, c'est-à-dire que l'un des rares trucs, on va dire, qui me plaît pas trop sur ce début de saison, moi, c'est ça sert à quoi de drafter des mecs avec plein de potentiel si c'est pour les foutre dans le trou du cul du banc et leur filer même pas 3 minutes par match.
Vous jouez le titre, là ?
Ouais, arrête. C'est vraiment relou. Ça me saoule. Les Rashir Fleming, les Kaman Malwar et tout, je dis pas que je les veux 28 minutes par match. Mark Williams fait un boulot tout à fait honorable et tout. C'est pas le sujet. Igodaro, donc dans la raquette. Ok, mais oh, un peu plus que ça quand même. Je trouve que ce serait cool.
En fin de saison, ils vont avoir pas mal du temps de jeu quand ça va commencer à reposer les cadres.
Pourquoi ça reposerait les cadres ? De quoi tu parles ? Ça va rien reposer du tout, là.
Les 16, on va rien reposer.
C'est ça qui est fou. C'est que ça va rien reposer du tout, là. Ils sont déterminés à jouer. Devin Booker, même si là, il est sur une streak un peu moins bonne, et globalement sur un début de saison quand même très sérieux. On lui demande d'être meneur, il est meneur. Avec un Grayson Allen qui vient de revenir, qui avait très bien démarré, qualité de shoot incroyable, du Royce O'Neal, Colin Gillespie. Donc il devient meneur là à côté de Booker. Jordan Hodge s'est dit bon en fait il est tellement fort mon TJ McConnell à moi que je vais le foutre titulaire. Grosse réussite à 3 points, gros hustle, le gars que la franchise est en train d'adopter, les fans avec et tout. Tu as évidemment du Mark Williams. Bon, Ryan Dunn a eu quelques soucis de blessure, mais dans l'ensemble, même si ça progresse pas trop au tir, ça se bat, ça se donne et tout. Donc oui, globalement, je vous le dis, quand vous cliquez sur un replay ou un match en direct des Suns, sachez-le, vous allez voir une équipe qui se donne, qui fait tourner le ballon, avec, quand ça veut bien sourire, une superstar comme Devin Booker, qui va vous en mettre plein les yeux, qui est très beau à voir jouer. Ouais, c'est une belle équipe et ça contraste énormément avec le trio de stars qu'on avait avant, où ça marchait pas et du coup ça rendait le truc un peu pourri. En plus, bon, Bradley Beal, voilà, mais Kevin Durant, même lui, là, en deuxième partie de saison, l'année dernière, il avait plus envie et tout. Donc ça, là, t'es sur un contraste assez saisissant et faut rendre hommage au coach, jeune coach, débutant. En head coach là, Jordan Hodge, qui a su, voilà, son groupe adhère, ça joue plutôt bien, le ballon il circule, ça joue les uns pour les autres. Quand ils perdent un match, Booker il arrive en conférence de presse, il fait c'est pour moi, c'est de ma faute, enfin genre
c'est bien.
Bon, bah
c'est le jour et la nuit avec il y a 9 mois. Il y a 9 mois c'était l'enfer sur terre et là tu te donnes. Coach
Jalen Green, bon, il a été blessé, mais oui, on y croit. Ouais, on croit que on a la sensation que Jalen Green peut s'intégrer dans ce collectif.
Tout à fait. Tu as parlé du coach, du staff.
Ah ouais.
On a parlé dans les 30 previews. Je me suis refait la séquence de Monsieur Dion Brooks, qui est un
bien, hein,
culture setter. Le mec avait mis à Memphis, notamment en partie, une politique et une ADN de travail, de détermination.
À Houston aussi. Hein.
Underdog. Ensuite à Houston. Et on avait supputé qu'à Phoenix, il pourrait avoir ça. On le voit. On le voit très tôt. Et donc, clairement, d'avoir des Suns compétitifs, c'est hyper plaisant. Moi, je t'ai dit, la punchline. Hein. Lorsqu'on a préparé le voyage avec Ben, là, on va au Texas. On s'était dit que Suns Rockets, bon, ça allait être un blowout et tout.
Entre KD.
Non, mais ça va être un, ça va être un match.
Bah, ça va être un vrai match.
Bah oui, mais ça, ça fait plaisir. Ça va être un beau match de basket.
Surtout qu'en plus.
Et vous vous battez, donc les matchs peuvent être serrés.
À part au poste 4 où t'as pas de vrai 4, parce que le seul vrai 4 vraiment du groupe, ça serait Rashir Fleming, et c'est un rookie, et Jordan Hunt le fait très peu jouer, où donc on met des ailiers, on demande à Ryan Dunn, on demande à Royce O'Neal, on demande à Dylan Brooks de s'y coller. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais ils se battent, attention. Sinon, sur tous les autres postes, t'as des clients un peu chiants. Sans parler du fait que bah, les défenses sont quand même bien obligées de se focaliser sur Devin Booker, ce qui, par effet de ricochet, donne de l'espace à Dylan Brooks, qui se fait un grand plaisir de croquer comme un malade, mais il rentre des paniers, hein, on va pas se mentir.
Il croque. Ah ben il croque comme un salaud.
Il croque. Hein.
Mais bon, il peut.
Il croque, mais c'est marrant. Enfin, il se bat. C'est un style. Du coup,
les
Suns sont cool à regarder. Voilà, ils sont cool à regarder.
Et ça fait du bien parce que toi, t'as vécu quelques années de purge là.
Ah, des faux espoirs, entre purge, faux espoirs, grosse déception. Ouais. Et donc là, au moins, comme tu t'attendais à moins, tu pouvais que être content. Mais j'avoue que je suis bien plus content que ce que j'aurais espéré.
Est-ce que ça peut tenir toute la saison?
Bah, justement. Moi, je me dis que les résultats, je pense pas. Par contre, le niveau de jeu, le hustle, l'énergie, le style, oui, les résultats, il y a eu des matchs un peu, on a pris certaines équipes au bon moment et tout, donc ça, attention. Mais en termes de fond de jeu, de manière, oui, je pense que oui.
Les Suns, très agréable à regarder. On peut faire un apéro de début de saison où nos équipes de cœur sont assez agréables à regarder. Je prends pas les Spurs, je prends les Hawks.
Les Hawks, c'est bien.
Mais il y a des gens aussi qui peuvent me dire que les Spurs,
c'est bien. Bien meilleur sans Triangle, comme prévu. Hein.
Alors, il y a l'aspect visuel où on peut débattre, et on va en débattre, de quelles sont les équipes qui ont le meilleur mouvement de balle. Statistiquement, numériquement, l'équipe qui fait le plus de passes décisives par match, c'est les Hawks Atlanta.
Le mouvement de balle est bon, hein.
Le mouvement de balle est excellent. Alors, il y a toute cette interrogation autour de l'absence de Triangle, comment est-ce qu'il va revenir, etc. Mais c'est sûr que le jeu est extrêmement fluide. Ça passe par le fait que le tempo soit assez élevé, que Quinn Snyder mette le ballon dans les mains de Jalen Johnson et que les munitions sont totalement réparties. Et donc, tous les soirs, Atlanta, tu sais pas, mais quelqu'un va te la mettre. Et donc, vite Krejci en sortie de banc. Onyeka Okongwu, sniper.
Tu sais pas, mais Johnson. Tu sais quand même que c'est Jalen Johnson qui va te la mettre. Parce que là, ces derniers temps, Jalen Johnson, c'est n'importe quoi.
Ça se voit qu'il a... Je sais que cette phrase est extraordinaire, mais ça se voit que cet été, il a travaillé avec LeBron.
La vache.
Il est énormissime. C'est un monstre. C'est un des meilleurs forwards de l'NBA.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Il est à 25 points, dire bon, 7 passes de moyenne. Et détente. Hein.
Ah, vache. Et en plus, avec le style... Se focus sur lui, parce qu'en ce moment, il n'y a pas très young. Et oui. Franchement, il en a rien à battre.
Très bien dans le decision-making. Donc... En plus, il y a le style, c'est-à-dire que le mec, en plus, il distribue bien dans les corners, il distribue bien pour ses copains en pick and roll, mais en plus, il faut monter sur la gueule de trois mecs, Jalen Johnson, ça punit bien, tu finis sur YouTube. Tu as, moi, des sensations formidables en sortie de banc, Mogay et Vid Krejci qui sont super excitants, avec un Vid Krejci qui est totalement en feu, avec un des meilleurs surnoms de l'NBA, Heat Check.
Bien, j'aime bien.
Heat Check, pour un mec quand même qui vient de la République Tchèque, c'est magnifique.
Ouais, j'aime bien.
Mogay, qui est une des belles révélations aussi en sortie de banc, qui fait le boulot. Et ces gars qui trouvent la place, comme Dyson Daniels, encore plus en progression, comme certains soirs Zachary Zaché lorsqu'il y a des transitions, Onyeka Okongwu lorsqu'il n'y a pas Porzingis, qui shoot à 3 points. C'est une... Et je ne parle pas de Nickel Alexander Walker qui est...
Même Dyson Daniels, hein.
Tout à fait, je disais Dyson Daniels, mais Nickel Alexander Walker, qui est en train de devenir peut-être une des plus belles signatures de l'été dernier en termes d'agent libre. Je veux dire, ce qu'a fait Atlanta, là, le mec, il a 20 points de moyenne en meneur titulaire, qu'est-ce qui se passe?
C'est comme Minnesota, là, quand tu vois qu'ils ont un mec qui manque dans le backcourt, il serait titulaire, Nickel Alexander Walker, c'est vrai. Hein.
C'est vrai. Et donc, du coup, moi, je dois avouer que, certes, je ne suis pas objectif sur les Hawks, parce que j'adore cette franchise, mais là, moi, ce qui m'épate, c'est que cette équipe s'est vachement ajustée sans Triangle, qui est quand même le centre du soleil, de tout ce que tu veux, de l'univers Atlanta. Donc souvent, il y a la balle et ça stagne un peu. Là, chaque soir, il y a quelqu'un qui peut punir. La balle bouge très bien. Ils font le plus de passes décisives de toute la NBA. Grosse réussite à 3 points, mais sans forcer aussi les shoots à 3. Donc c'est pas, tu sais, par exemple, les Celtics champions, là où t'as envoyé 50 tirs à 3 points et tout. C'est on va à l'arceau, on va envoyer des lobes en l'air pour des gars. Ça essaie de pousser. Et donc, bah, j'avoue que je prends un sacré plaisir à regarder les Hawks, ce qui force l'interrogation autour du retour de Triangle, qui va revenir vers fin décembre, début janvier, et de se dire comment est-ce que ça va se passer cette affaire, parce que c'est vraiment hyper plaisant à regarder. Et les résultats sont là, en plus. C'est que moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent tenir ce rythme, les piou-piou. Ouais, je suis d'accord. Et le truc que j'avais le plus sous-estimé, et alors ça, moi, ça m'a complètement sidéré, parce que tu te doutes bien, je me suis foutu des fans des matchs des Hawks depuis quelques années. Hein. Je ne pense pas que ce soit lié à Trey en lui-même, mais le niveau de compétitivité de cette équipe est énorme. C'est-à-dire que même quand ils sont en back-to-back pour aller à Détroit exténués,
ils jouent.
Les mecs se cassent la gueule pour essayer de tenir. Ils ont besoin de se faire terminer par Kate Cunningham dans le Money Time. Les mecs étaient en prolongation la veille. Moi, là-dessus, connaissant cette franchise depuis longtemps, j'avais dit, si je respecte le format triangle depuis des années, c'est un match, il y a 22 à la mi-temps, on repose, on va rentrer à Atlanta. Ça se donne. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas forcément. J'adore ces Hawks. Les Suns et les Hawks, alors ça, franchement.
Boum, c'était l'apéro Suns-Hawks. Merci franchise. De l'avoir visionné.
Absolument. C'était pour vous dire que nos équipes vont bien. Fan des Pacers. Vas-y, une autre équipe.
Ouais, je vais garder ma petite wild card pour la troisième. Moi, il y a le Thunder. C'est con, vous allez me dire, c'est normal, ils gagnent tout. Non, c'est même pas qu'ils gagnent tout, c'est genre...
Parce que c'est l'équipe la plus, une des équipes les plus kiffantes à regarder. Je sais que ça crée beaucoup le débat, ça.
Alors, de mon point de vue, oui. Pour plein de raisons. Une raison étant que je dois avouer que depuis le temps que je suis la NBA, là, je suis là en train de me dire, attends. Qui va les battre? Quand est-ce qu'ils perdent des matchs? Donc, j'ai rien que ça, ça me donne envie de regarder le Thunder. Du coup, je regarde, j'ai pas dû rater beaucoup de matchs du Thunder, en fait. Ensuite, même en, quand tu fais du replay beaucoup comme moi, bah, leur défense, leur délire défensif de quel que soit le 5 aligné sur le... T'as l'impression parfois que Marc Degnaud, il fait « Comment tu t'appelles déjà ?»« Ouais, bah vas-y, rentre sur le terrain, s'il te plaît. » Et ça change rien du tout à la défense. C'est complètement impressionnant.
Moi, s'il faisait un all possessions game avec que les séquences défensives du Thunder pendant 20 minutes, je regarderais.
Moi, je peux regarder, ouais, sans problème. Leur défense en switch all de grand malade mental, hyperactif, où les mecs mettent un point d'honneur, les joueurs extérieurs, à ce que l'attaquant adverse ne passe pas l'épaule, c'est un délire qui n'existe dans aucune autre équipe NBA depuis longtemps. Et je trouve que dans cette ligue où on a beaucoup de... Bon, je suis pas d'accord avec eux, mais je respecte leurs avis de gens qui disent « Oui, ça défend plus et tout », bah putain, j'ai envie de dire « Regardez OKC ici ». Parce que c'est une des meilleures défenses que j'ai jamais vues de toute ma vie de fan de basket. Jamais vu ça. C'est un délire. C'est un délire. Ils savent répondre à tous les types de défis. Alors, il y a des joueurs qui arrivent de temps en temps à leur faire du mal et tout, mais grosso modo, dans l'ensemble, on voit bien que les mecs ont beau être champions en titre, ils ont cette dalle. Je les soupçonne même d'avoir la dalle de se dire « Non, mais tu sais quoi, on va en perdre qu'un. On en a perdu un contre Portland, c'était une exception. On va perdre qu'un match cette année. » Comme ils finissent beaucoup d'adversaires en trois quarts temps en plus,
c'est ce que j'allais
ils
dire.
Ont les moyens physiques de dire « Bon, bah, Shay, c'est bon, t'as joué 28 minutes, de toute façon, il y a plus 24. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vas-y, va t'asseoir. »
Ce qui est très agréable, c'est Shay, que les
il joue 28 minutes, il peut rejouer le lendemain ou deux jours après, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, non. Et puis, moi, j'avoue que Shay Gilgeous-Alexander, certains vont me fatiguer là, à nous expliquer que le mec, c'est un vendeur de lancer franc, n'importe quoi. C'est un des meilleurs attaquants. Voilà. On verra ou comment on le classera. Un de ces quatre
avec Bastien.
On va vous ressortir notre top 10 des scores all time. Si des gens commencent à me mettre Shay dedans, bah quoi, ils auront des arguments. Hein.
On a fait un top 10 là récent des moves les plus indéfendables. Il était où Shay avec
Il était très haut. Mais après, t'as le côté scorer all time, tu sais, dans lequel on s'était battu un peu entre Kobe, Jordan. Moi, j'avais KD très haut.
C'est Will Chamberlain là qui est en train de rattraper en nombre de matchs consécutifs.
C'est n'importe quoi. Et en plus de ça, là, on vient de voir genre Jalen Williams. Il vient à peine de revenir. Le gars, il revient. T'es là, tu fais « Ah oui, c'est vrai. Ah la vache. » Défensivement, c'est n'importe quoi de Jalen Williams. En attaque, bah ça change tout pour le Thunder. Chet Holmgren se destine de plus en plus à être une espèce de super role-player option numéro 3, c'est-à-dire un 3-and-D du poste 5. Mais il sera peut-être jamais plus, mais ils en ont pas forcément besoin. En gros, j'avoue que sans être ni un fan du Thunder ou quoi, genre, ouais, quand j'ai l'occasion de me faire un petit replay du Thunder, je suis quand même là genre « bien ça. » Impeccable. Je vais me faire le Thunder parce que quand même, ça joue grave bien au basket.
tactiquement, c'est très impressionnant. Ça respecte les consignes. Et il y a le côté next man up, quoi. C'est-à-dire que là, je suis là en train régulier. De le dire à Jay Mitchell, Kayson Wallace, à Ron Wiggins. Enfin, c'est-à-dire, c'est une équipe, je connais le 12. Je connais le 12, puisque le coach utilise tout le monde, tu vois. J'ai dit, ah oui, Jalen Williams, c'est vrai, ça faisait longtemps. Tiens, bah, cool, je suis content de le voir. Passage en force, 3 points. Ouais. Tu vois, genre, voilà. Donc, ouais. Le Thunder, pour moi, est une des équipes qui est le plus cool à regarder parce que, bah. Parce qu'on n'en voit pas. C'est pas si souvent qu'on voit une équipe dominer autant la ligue, en fait.
Parce que si tu peux regarder les Beatles Prime faire un concert, tu regardes les Beatles Prime faire un concert. T'as envie de voir les choses historiques et légendaires se produire, je suis d'accord. Le seul désavantage du Thunder pour regarder leur match, c'est que ça dure 36 minutes, comme tu as dit.
T'en fous, c'est le seul truc. Comme moi.
Oui, voilà,
tu sais. Les trois premiers quarts.
Mais l'affaire est assez courte.
Oui, bah oui, le suspense, c'est pas au rendez-vous.
C'est que si tu veux des matchs serrés, regardez pas le Thunder.
Bah, il y a eu contre les Wolves l'autre jour, c'était bien. Hein.
Ouais, voilà, mais.
Non mais voilà, donc en gros, ouais, moi je prends beaucoup de plaisir à regarder le Thunder jouer pour plein de raisons différentes et notamment la globalité de ce groupe qui est quand même, c'est quand même très impressionnant. C'est très impressionnant et du coup il y a une curiosité de ma part de se dire, attends, faut voir leur calendrier, c'est quoi, ok, ils vont à Houston, bon, on verra ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Genre, faudra aller à Denver, non, ouais, mais Denver a des blessés, enfin. Oh, parce que là, ils ont eu 21
victoires, une défaite.
Ils sont en 21 au moment où on fait cette vidéo. Parce que vous, au moment où vous la regardez, peut-être qu'ils sont en 32. Non, mais concrètement, ouais, non, ils sont très impressionnants des deux côtés du terrain. Et il y a un côté groupe assez incroyable de profondeur où, je répète, ils ont eu des sacrées blessures là sur le début de saison.
Oh,
normalement, avec les blessures qu'ils ont. T'es pas en 21.
Non.
T'es en 14-6 et tout le monde dit que c'est incroyable quoi comme début de saison.
Ouais.
Putain. Bah 14-6, c'est pas ça. Non. Leur suivant est le un suivant tout petit est peu en mieux, 15-5. Mais bon voilà. Donc ouais, non, clairement le Thunder, moi je les mets dans mon top 3 des équipes cool à regarder sur ce début de saison parce qu'en fait, je comprends les éventuelles critiques qu'il y a. Enfin en fait non, je les comprends pas. Je les respecte, mais je les comprends pas. Voilà.
Le 8.
Ça, c'est pareil, il fallait la sortir, celle-là, au début de la saison.
Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pardon,
hein, mais Fanny. Pas la meilleure attaque.
C'est la meilleure attaque.
Ah bon?
C'est, en tout cas.
Tu vérifies.
À regarder.
Ah oui.
Et en offensive rating, feu à volonté.
Offensive rating, non, mais.
Ils sont
même pas 10e, si, à ton bouchon.
Ils sont
dans la pace. Ils sont premiers en pace, mais ils sont genre 10-12e
oui, bien rating. Sûr. Non, mais ils sont en pace, surtout. Non, en pace, ils sont premiers, évidemment. C'est surtout ça le plus gros,
en
plus
pace,
gros changement.
Premier, le hit. Non, mais attends. Non, mais déjà, c'est ça, cette phrase-là. Une équipe d'Eric Spoelstra.
Le hit est 11e en offensive rating, mais à limite.
C'est déjà pas mal hein, pour le hit.
Dans cette vidéo, on parle de certains ratings offensifs, mais c'est pas forcément ça, tu vois, le truc. C'est aussi l'impression visuelle qu'on a. Et franchement, regardez le hit le soir. Déjà, on va faire les courses au trophée là dans. Vous le savez, chaque année en décembre, on fait la course au trophée et tout. Spoiler, mon coach de l'année, vous le savez, il est à Miami. Ce que fait Eric Spoelstra cette saison, avec notamment cette espèce de. Tu peux me retrouver son nom, c'est Laroche, là, l'appel Laroche.
Ben Larson.
Non, Laroche, le gars, l'ancien assistant des Grizzlies.
Des Grizzlies.
Qui a foutu le bordel et qui maintenant vit à Miami pour faire son système où il est interdit de faire quasiment un pick and roll par match à Miami. Tu ne peux pas. Laroche, Noah Laroche, j'aurais dit. Bref, pour ceux qui n'ont pas le contexte, l'année dernière, Grizzlies, on était avec Taylor Jenkins et il y avait Noah Laroche qui était venu avec Tuomas Isalo pour intégrer un nouveau système qui était assez révolutionnaire. Les Grizzlies étaient à Noël podium des équipes offensives les plus efficaces de toute la NBA. On se disait, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu ne peux pas poser un écran. Tu as la balle, soit tu drives, soit
Noah
tu.
Noah Laroche. Ancien assistant des Grizzlies.
Soit tu drives. Soit tu te déplaces avec le reste de tes coéquipiers, mais il n'y a pas de pick and roll. On arrête, c'est side pick and roll à outrance. Ce qui a rendu fou Ja Morant, évidemment, et qui nous a mené à la situation actuelle.
Fast forward, le high pick and roll surtout.
Tout à fait. Ouais, fast forward quelques mois plus tard, Noah Laroche est à Miami, et le hit, on l'a vu avec le retour de Tyler Hero, où là il dit, c'est un peu particulier quand même cette affaire, parce que moi je suis habitué à des pas mal de pick and roll, mais tous les soirs, le hit, j'ai un mec qui va me faire kiffer. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? High tempo, le hit qui joue high tempo, pardon, le truc le plus anticulturel qu'on avait vu depuis des années avec Eric Spoelstra. Spoelstra serait ramené dans les 30 previews, il aurait dit, les gars, vous n'êtes pas prêts, Alex, Bastien, Léonce, mais on va être l'équipe la plus rapide de toute la NBA. On aurait dit, lol, Eric, assieds-toi, Eric, qu'est-ce que tu fais, Eric ?
C'est clair.
Mais n'importe quoi.
Tu prends pour Popovic ?
Non, mais
tu veux nous faire passer une équipe lente et défensive en une équipe rapide et, au passage, toujours défensive.
Et toujours défensive.
Parce qu'en défense, il rigole toujours pas. Problème.
Regarde-moi, Norman Powell, t'as 2 secondes pour prendre une décision. En plus, c'est ton registre. Bam ! Allez, plus de 20 points de moyenne, des pourcentages et on y va. Kyle Ware, je vais te botter le cul. Soit tu vas être bon en titu, soit tu vas être bien en backup. Kyle Ware, on va peut-être...
Début de saison, il est bien.
C'est très fort. Et surtout, récemment, parce qu'il était challengé, on avait parlé dans la preview, par Alex Postra, où parfois les sautes de concentration sont assez énormes avec Kyle Ware, il est jeune. Mais là, parfois, il y a des moments où il est avec Bam Adebayo. Et Bam Adebayo, on est en train de le retrouver, comme on en parlait dans la preview. C'est-à-dire agressif. Il y a des situations de scoring où il est super. Et puis, bah tiens, on va faire rentrer Davion Mitchell. Et puis, ce soir, ça va être Rémy Raquez. Et puis, c'est un peu dur en ce moment pour Nikola Jovic, mais on peut déjà dire que dans 2 semaines, ça va revenir. Du coup, c'est Pelle Larsson qui rentre en jeu. Tous les... Ou sinon, c'est Wiggins.
Drew Smith.
Tous les soirs, le Heat galope et joue le basket le plus première intention qui existe. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Il joue première intention. Il n'y a pas du tout les systèmes classiques.
C'est du run and gun.
C'est un espèce de run and gun.
Il a passé les vacances avec Mike D'Antoni ou quoi, ce Spoelstra là ?
Mais je sais pas. Mais en tout cas,
il y avait du pick and roll, Mike D'Antoni.
Il y avait quand même beaucoup de pick and roll. Là, je pense que si vous voulez vous amuser, regardez le Heat et essayez de compter le nombre de pick and roll tentés par match. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que tu as un Bollenhuller qui a la balle et un des réflexes des joueurs, c'est de demander à un big de venir et de porter et de poser l'écran. Le Bollenhuller s'arrête, donne la balle à son poseur d'écran et c'est en mouvement permanent. Ils sont en mouvement permanent. Et donc, ça met des 140, des 120, des 135. Et puis, demain, ça va être un autre mec qui va prendre feu. Le Heat, là, cette saison, early coach de l'année, Eric Spoelstra, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas si ça peut durer toute la saison. Moi, c'est ma grosse interrogation.
Ah, je leur souhaite, parce que c'est cool.
Mais tous les joueurs ont buy-in. Ce qui n'était pas facile, parce qu'à Memphis, ils ont essayé avec La Roche et ça a duré une demi-saison, cette affaire. Mais là, tout le monde est au diapason. Ils sont tous chauds. Donc, on va voir après avec Tyler Herro, parce que c'est plein de variations avec son
retour. Tyler Herro, plus pour le coup, ça vaudrait le coup peut-être de réintroduire quelques écrans, peut-être pour Tyler Herro.
Peut-être.
Ça peut être une réflexion, en
tout cas. À fait. Mais est-ce que tu peux jouer comme ça en play-off ?
Bah oui.
Est-ce que
avec leur défense ?
Non, avec leur attaque. Non,
je sais, mais parce que comme ils ont cette défense,
ils ont la défense.
Pas oublier qu'ils ont cette défense.
Ils ont la défense, tout à fait.
Donc, du coup, oui, tu peux. Bien sûr.
Donc pendant des années, si des gens allaient à Miami et nous disaient oh, est-ce que je dois mettre 150 balles dans un match, on était là genre si t'aimes le grind, et puis ça va être les matchs 8, donc ça va être serré, et on va essayer de voir si un shoot rentre. Putain, mais là, mais c'est des baisers. Pardon, mais le Heat à regarder là, foncez, c'est. En fait, c'est là qu'il doit avoir le maillot Miami Vice qui revient, tu vois, avec ce jeu tout running gun là. Cliquez sur le Heat.
J'ai une petite wildcard pour finir mes 3. Petit péché mignon, moi, j'aime bien regarder les Dallas Mavericks sur ce début de saison. C'est vrai.
Récemment, alors.
Oui, bah après, le début de saison a été dur. Mais tu sais quoi, même le tout début de saison, ça se battait. C'est pas trop lâché. L'équipe a pris des branlées sans trop lâcher. Après, elle n'avait pas les moyens de se battre parce que Klay Thompson ne mettait plus un tir. Anthony Davis blessé, pas de Kyrie Irving, Derek Lively. Enfin, voilà, à un moment donné... L'équipe était emmenée par Najee Marshall et,
yes,
le
et Brandon
canal,
Williams.
Voilà, c'est ça. Brandon Williams, très bien.
Mm-hmm.
Moi, j'aime bien ce genre de joueur. En fait, on a eu des discussions... pas si mal. Hein. On a eu des discussions, tu sais, on se disait, ouais, Anthony Davis, il faut qu'il rejoue un peu, faire remonter sa cote, il va être tradé et tout. Moi, secrètement, j'espère fort qu'ils vont attendre tranquillement le retour de Kyrie. Et qu'on va avoir un janvier, février, mars avec une équipe de Dallas qui monte en régime.
Je te confirme, je vais voir les Mavs à Dallas dans un mois, je veux pas qu'ils transfèrent.
Qui gagne un peu des matchs et qui commence à proposer du basketball dans la continuité de celui qu'on voit récemment. J'aime bien. J'y crois. Ensuite, je trouve qu'on a quand même un numéro 1 de draft. Alors, je sais qu'on a tendance à trop utiliser le côté talent générationnel et tout, donc on va se calmer sur Cooper Flagg. Ça reste un talent qu'on voit pas tout le temps.
T'as vu ce qu'il a fait aux Clippers, là?
Ce qu'il a fait aux Clippers, ce qu'il fait d'une manière générale, dans un contexte pas évident, alors que le type n'a pas le droit d'acheter de bière ou voilà, vous m'avez compris, aux États-Unis.
Rien du tout.
Laisse tomber. C'est n'importe quoi.
Bah, il va les avoir là, il est 19.
Il va avoir 19 seulement, là.
Où il les a là.
Le contexte est difficile. Jason Kidd, comme d'hab, on peut se dire ce qu'on veut. C'est vrai que c'est un peu bizarre d'essayer Cooper Flagg, de le mettre en premier ball handler alors que le mec doit déjà découvrir la NBA et tout. En revanche, Jason Kidd, pour l'instant, il a bien gardé son groupe.
Il ne s'est pas pris la tête. Hein. Il a filé de la chance à des Brandon Williams ou à... Comment il s'appelle là ? Moi, j'aime assez bien... mince. Le pivot, là. Moussa Cissé.
Let's go.
Moi, j'aime bien.
Ouais, grave.
Let's go. J'aime bien, ça. Moi, ça, c'est du Jason Kidd comme Ryan Nembhard, évidemment. Voilà. Là, il a Anthony Davis qui revient. J'aime bien ce qui se développe aussi autour de Max Christie. Je déteste pas, c'est un joueur dont le talent est réel. C'est pas un titulaire en NBA, là. Il a été titulaire, Max Christie. Voilà. Il a joué 22 matchs, il a été titulaire 19 fois. C'est Max, spoiler, ça va changer, tu vois. Ça va changer parce que normalement, Kyrie est amené à revenir. Tu aurais Cooper Flagg, tu aurais Anthony Davis, plus éventuellement un pivot. Il manque juste un poste derrière. Je suis pas sûr qu'il soit titulaire Max Christie dans tout ce bazar. Mais par contre, ça se développe. Il y a des choses qui se passent. J'ai bien aimé la mentalité de ce qu'ils ont montré. Najee Marshall, il est allé au charbon et tout. Et donc, je pense que c'est une équipe qui va récupérer du talent en Anthony Davis et en Kyrie. Et... on verra Derek Lively, on en parlait en off avec Bastien, Derek Lively, le fait de pas avoir un vrai meneur qui peut lui distribuer, ça lui complique fortement la vie. Est-ce qu'il est capable de s'adapter et d'arrêter d'être blessé autant qu'Anthony Davis? On va voir. Mais c'est pas le problème le plus grave des Mavs, c'est triste, mais des pivots, ils en ont, des intérieurs, ils en ont. J'ai même pas prononcé le mot PJ Washington encore, tu vois. Genre, ils ont vraiment de la cam. C'est une équipe que j'aime bien regarder. Je sais que les fans des Mavs sont en souffrance en ce moment et on les comprend vraiment, hein. Surtout avec ce qui se passe à Los Angeles où il y a un candidat MVP qui est en train de se mettre en place.
J'allais dire, là, c'était là, lundi, je sais pas si vous avez vu, là, joueur de la semaine, Luka Doncic et Jalen Brunson.
Dur.
Ça fait mal.
Dur. Dur. C'est les joueurs de la semaine spécial Nico Harrison. mais concrètement, en revanche, si ça peut leur mettre un tout petit peu de baume au cœur aux fans des Mavs, leur équipe, elle en chie. Les joueurs lâchent pas, le coach lâche pas, il y a un peu de talent qui va revenir. Moi, j'ai pris du plaisir à plusieurs reprises. En plus, Cooper Flagg, je trouve que c'est vraiment un joueur intéressant. Ça sent la longue carrière à plein nez, joueur fort. J'ai vu beaucoup de comparos avec LeBron. Moi, je comparerais presque plus à du Grant Hill, perso, mais
Grant Hill,
on compare avec ce genre de type, quoi. Hein, donc, c'est quand même correct.
C'était très agréable à regarder, Grant Hill.
Voilà. Donc, et puis je crois en son mental. Enfin, moi, demain, tu me dis, ouais, les Mavs, à terme, faudra sûrement qu'ils tradent leur vieux et qu'ils construisent autour de Cooper Flagg. Je te fais, oui, d'accord. Ok. Question suivante. Enfin, tu vois. Alors on y va quoi, let's go.
C'est D'Angelo dont il faut se défaire
oui,
aussi.
Oui, D'Angelo, bien sûr. Mais concrètement là, voilà. Mais avec du Kyrie qui revient, Anthony Davis, PJ Washington, Cooper Flagg, Najee Marshall, un peu de Max Christie qui sort du banc, Daniel Gafford et tout. T'as une équipe à Dallas, t'as un coach qui a pas lâché, t'as un groupe qui a pas lâché. J'aime bien, je respecte ça. Alors pour l'instant au niveau comptable c'est compliqué, mais franchement ça peut enchaîner quelques wins. Hein.
Moi, j'ai un Mavs Rockets à Dallas le 3 janvier, je crois. On va faire 3 janvier.
Potentiellement, d'ici là, ça peut être un vrai match.
Tenez bon, les gars.
Mais ça peut être un vrai match.
Ouais.
Anthony Davis. Bon, ok, il se blesse trop. Hein. Mais putain, quand il est là et qu'il n'est pas content, il n'y a pas beaucoup d'intérieurs qui peuvent faire grand-chose. Hein.
Le duel avec Jokic, là.
Et donc, avec un Cooper Flagg à côté, un Kyrie qui reviendrait, quelques mecs qui mettent dedans à 3 points, comme Najee Marshall, PJ Washington... Allez, Klay Thompson, qui là est sorti de son cercueil pour rentrer quelques tirs là récemment. Non, mais c'est vrai. Du coup, non, il y a une vraie équipe. Je sais plus où je les avais mis en preview, mais j'ai dû les mettre quelque part dans le play-in. J'y crois.
Dixième.
Je pense que cette équipe va proposer du vrai jeu et va faire partie des équipes play-offables.
En fait, c'est l'attaque qui nous faisait le plus chier parce qu'il y a eu. Il y a quand même eu quelques bases défensives et c'est l'attaque où on s'est dit, mais où est-ce qu'ils vont trouver leur scoring avec les absences de AD, de Kerr et tout. Ça a été atroce en début de saison, vraiment, on a vu des trucs.
Mais ils peuvent, et avec les retours, ça va être bien. J'y crois.
Les muscles chauffent. Ouais, kudos au staff d'avoir tenu, parce qu'en fait, il fallait virer Nico Harrison. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un avant-après. Hein. Ça, on a libéré 2-3. Hein.
Ouais, je pense, ouais. Et puis, je pense, concrètement aussi, c'est tout bête, hein, mais c'est du. On voit bien, là, du retour de blessure. Anthony Davis qui revient et qui joue quelques matchs, là, c'est marrant, mais tout de suite, bah, du Cooper Flagg, il a plus de place.
Oui.
Puis il va apprendre un peu, il va avoir un peu moins de responsabilité. Enfin, c'est très important. Donc, voilà. Moi, j'ai un top 3 tout à l'ouest.
Et moi, je boucle avec un top 3 tout à l'est. Atlanta, Miami. Et celle-là, j'avoue, vas-y. Je ne m'y attendais pas, j'ai cliqué. Qu'est-ce que j'ai maté les Raptors sur ce début de saison ? Où en fait, je n'avais absolument pas prévu.
Mes hommages et respects d'Arko Rajakovic.
Bien.
On avait dit il lui fallait une saison complète et une intersaison pour mettre en place son système. Et bien, le système, il commence à être mis en place.
Mm-hmm.
Toronto fait partie des équipes séduisantes sur le début de saison. Dans la continuité des équipes qui font le plus bouger la balle sur ce début de saison, Toronto, 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 ça circule dans tous les sens. Et donc, ça veut dire que tous les soirs, pareil, on va avoir des gens qui vont nous surprendre. Tu as des bases. C'est que Brandon Ingram, tu le sais déjà visuellement, moi, de retrouver Brandon Ingram qui est à l'aise et être dans la conférence Est. Tout à fait. Et puis, Brandon Ingram à l'ouest, c'est un lampadaire. Brandon Ingram à l'est, c'est un titulaire, un quasi All-Star. On est d'accord.
Ah bah ça.
On retrouve aussi un Brandon Ingram qui a du rythme, qui a du flow, qui commence à mettre ses mid-range. On commence à avoir les comparos avec le footwork de Kobe parce qu'il a appris aussi des plus grands. Et donc du coup, je suis content de revoir Brandon Ingram dans sa cuisine. Il est beau à regarder Brandon Ingram quand il est en rythme. C'est un beau joueur, c'est talentueux, il est longiligne, il te back doucement et ensuite il plante sur toi.
Il est un petit peu fâché là, il a envoyé quelques perfs. Il a envoyé quelques perfs, tout à fait.
Et puis on retrouve, merci, la meilleure version de Scotty Barnes, qui est défensivement dans les candidats des meilleurs défenseurs de l'année, qui est partout, partout, et qui ne force rien offensivement.
Les Raptors, ils sont chers en défense.
Tout à fait. Et Scotty ne force rien en attaque, il trouve, parce qu'il a une super vision du jeu, il trouve tous les copains, il y a Jakob Poeltl dans Dunker Spot, RJ Barrett ou Emmanuel Quickly à droite à gauche, même quand Emmanuel Quickly n'était pas en rythme. Après, il a réussi à attendre que ce soit son heure, et ensuite il y va. Et puis bah là, moi, où j'avoue, je suis le plus choqué, mais c'est le banc des Raptors.
Mais c'est quoi ce bordel?
Le banc des Raptors.
Mamou Kalajvili, Jamal Sheed. Sheed.
Ouais, tout à fait, mais Jacoby Walter, vas-y. Et puis Grady Dick, tu vas faire des behind the back pass. Le banc, là, le banc des Raptors, chaque soir, il rentre. Et en fait, au moment où il rentre, je suis limite plus
le
curieux.
Rookie, hein, le rookie. Murray Boyles.
Oui, Colin Marables, absolument, absolument. C'est très très bien. Et donc, du coup, j'ai été limite parfois encore plus séduit par les seconds quart-temps que par les premiers des Raptors, parce qu'en fait, quand il y a le banc qui rentre, à moi, ils me font trop kiffer. Ils me font trop kiffer. Ils ont. C'est pas qu'ils ont tous feu vert, parce qu'ils font bien bouger la balle, mais tu sens que dans ce qu'a voulu installer Rajakovic, tu ne dois pas isoler le ballon trop longtemps. Tu prends le cuir et tu prends une décision rapide. Et donc, regardez les Raptors, ce sont des situations où souvent le ballon circule bien et tu sais pas qui va te la mettre.
Puis il y a une belle répartition.
Oui.
Moi, c'était une de mes questions pendant les previews. J'ai dit, comment tu fais? Est-ce que j'ai un peu l'impression que tu as trois fois le même joueur, entre guillemets, hein, c'est pas le même joueur, mais trois fois le même poste, des swingman, des trois, certains peuvent bricoler en deux, d'autres peuvent bricoler en quatre. Je parle évidemment de Brandon Ingram, Scotty Barnes et RJ Barrett. Bah, en fait, l'équilibre entre les trois, tout le monde est à sa vingtaine, tout le monde vient participer au rebond, ça se relaie sur les tâches défensives. Du coup, c'est un trio qui est très chiant à jouer en défense.
Tout à fait. Et
Poeltl finalement marche assez bien et Quickly, bah, faut qu'il mette ses tirs, mais quand il les met,
ils sont
c'est cool.
Insupportable à jouer, tout à fait. Et moi, vraiment, il y a un truc qui me fait plaisir avec ces Raptors en plus du banc. Ça fait tellement plaisir de voir des équipes où tu as une espèce de vision. Toi, dans ton canapé, où on en parle à l'apéro, tu te dis genre, mais ça devrait être comme ça. Les Raptors, ils jouent comme ils devraient jouer.
Oui, c'est vrai ça.
Scotty Barnes est dans son rôle. Brandon Ingram est dans son rôle.
Et ce sont des joueurs à la vingtaine de points, ces joueurs-là, les RJ Barrett, les Brandon Ingram. Ça sert à rien qu'il y en a un qui essaye de forcer à prendre 12 000 tirs de plus que les autres pour essayer. Je suis d'accord.
Ils sont tous dans leur rôle et c'est tellement agréable de voir une franchise NBA où chaque joueur est dans sa case. Ils me font trop kiffer.
17 tirs Ingram, 15 tirs Barnes, 14 tirs Barrett. C'est bien ça. T'en as aucun des trois qui essaye de prendre 23 tirs là.
Non. Et lorsqu'on a eu certains soirs où Barnes se dit « Ouh là là, mais attends, en pénétration, là, je peux bumper des gars et scorer », les gars disent volontiers « Mais c'est à ton tour ». Et quand Quickly commence à avoir chaud, « Mais finis-nous le match ». Et puis quand Brandon Ingram commence à avoir tout rouge, bon bah là, ils lui donnent la balle, ils disent « Écartez, régale-nous ». Lorsque les Raptors finissent bien les matchs, ils le finissent de la très bonne manière. C'est du beau basketball, les Raptors, sur ce début de saison. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce qui se passe avec Rajakovic. Je pense qu'ils peuvent tenir ça tout du long.
Pas mal,
voilà
ça.
Pour le top 3.
Pas mal.
On est pas mal. Dites-nous, vous, quelle est l'équipe qui vous fait le plus kiffer?
À regarder, évidemment, sur le début de saison, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Évidemment, il y a des classiques. Hein. Les gens qui regardent peut-être les Pistons sur le début de saison, ça les fait kiffer certains.
Pistons, c'est grave, il y a moyen.
Le mouvement de balle autour de Denver, quand ça clique bien certains soirs, c'est quand même bien vénère. Hein.
Très intrigué par ce qui se passe à Los Angeles chez les Lakers, pour moi.
Ouais, Houston, j'avoue que j'ai pris mon
Houston, ouais, fois, ouais, grave. Mais j'ai failli les mettre dans mon top 3. J'ai mis les Mavs.
Lakers?
Non, Houston. Houston. Mais les Lakers, très intrigués. Après, c'est pas forcément ce que je préfère regarder.
Oui.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même dans cette équipe. Hein.
Tout à fait. Il y a eu 10 jours de Bulls et après ils sont sortis du classement. Mais les 10 premiers jours des Bulls.
Bah voilà, c'était que les 10 premiers jours.
C'est ce qu'on appelle la vidéo des conclusions
après. Let's go to the 10e place.
Hein, si j'étais 9e, je serais inquiet. Comme
ouais.
Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tout ça, qui vous allez regarder. On vous fait des très très gros bisous et on se retrouve dans d'autres petits apéros Trash Talk.
Ciao, à tout le monde.
Prochaine.
Bisous, bisous.
Ciao.